La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et on est de retour, c'est la deuxième partie de la midinale, je sais toujours pas 5 points combien. Quelqu'un sait ?
7.
5.7, super. Il faut bien être 12 pour ça. On est le 18 novembre, Kat n'est toujours pas là. Mais en revanche, Fanch est là, il est prêt. T'es prêt ?
Oui, ah bah oui, bien sûr.
Alors c'est à toi, et tu as 17 minutes.
17 minutes, j'aurais pas autant. Bonjour à tous et à chacun. Je vais le redire, parce que comme ce ne sont pas les mêmes auditeurs que vous avez à chaque fois. Alors bonjour à tous et à chacun. C'est pas prévu dans la chronique, mais ça me fait toujours rire de le dire. C'était la phrase d'entrée de Clara Andiani, qui faisait une mission de solidarité sur France Inter. Le principe était, je vais vous raconter l'histoire de Madame X ou de Monsieur Y en difficulté, et on envoyait de l'argent via France Inter. Bonjour à tous et à chacun. J'étais petit enfant et ça me marquait, cette chose-là. Donc je me suis dit, un jour, si je fais de la radio, tout ça, je dirais bonjour à tous et à chacun. Alors ce matin, je vais vous parler de radio publique, depuis la dernière fois, que je ne vous en ai pas parlé. Et je vais essayer d'aller moins vite que la dernière fois, parce que je trouvais que, tellement emballé par mon sujet, je risquais de perdre l'auditeur inestimable de Radio Piquet. Donc, se prépare dans l'avenir, on a maintenant les échéances, la future loi audiovisuelle publique qui est annoncée, présentée au gouvernement début décembre, travaillée par les assemblées en 2020, applicable en 2021. Cette loi audiovisuelle va faire différentes choses, et c'est pas de ça que je vais vous parler ce matin, mais c'est pour contextualiser, vous me connaissez, et puis comme je ne travaille pas au PL... Moi, je suis plutôt au VL, véhicule léger. Oui, c'était ma petite vanne pour me faire plaisir.
C'est bien contextualisé, là.
Ouais, c'est bien contextualisé. Donc, cette loi audiovisuelle va créer un mastodonte qui va s'appeler France Média, qui va réunir les audiovisuels publics de France, excepté Arte. Et en attendant, Macron et le gouvernement peuvent bénéficier de bons petits soldats. Je ne connais pas le féminin de soldat. Ça concerne soldate, c'est vraiment officiellement ça. D'accord, donc je reverrai mon billet de ce matin. Je savais pas, j'étais pas sûr. Donc il y a deux soldates formidables qui travaillent dans les audiovisuels publics, à savoir Delphine Ernotte, PDGère de France Télévisions, et Sybille Veil, PDGère de Radio France. Et je vais vous parler de Radio France. La PDGR a mis en place un plan qui s'appelle 2019-2022, dans lequel pratiquement l'essentiel, je suis un peu terrible de dire ça, mais l'essentiel, c'est, on ne peut pas appeler ça des suppressions d'emplois, paraît-il, c'est des départs volontaires de environ 300 personnes. Alors déjà, d'un point de vue sémantique, c'est intéressant, départ volontaire, il y a 4500 employés à peu près, hein, 4400 ou 4500, et moi j'imagine qu'on les réunit dans la cour. Qui c'est qui veut partir ? Personne ne lève la main. Il y a un problème, là. C'est engagé, le gouvernement lui a dit moins de pognon et tout. Donc déjà, c'est déjà un premier pipeau magistral. Il y a des gens qui vont carrément pousser dehors, sachant qu'il y a un plan d'accompagnement avec un acronyme épouvantable, mais qui existe. Ce plan d'accompagnement permet à quelqu'un de dire « oui, je pars », il me faut telle formation pour partir, et puis j'aurai un emploi, enfin, donc c'est assez garanti, on dirait assez garanti pour le personnel. C'est pas ça non plus dont je vais vous parler, mais c'est toujours un peu vous mettre les choses en contexte. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est que sous couvert à la fois de sémantique et de langage. Vous l'avez lu, bien sûr, parce que vous vous êtes très fidèle. J'ai fait un petit billet l'autre jour sur la LQR, et je vais pas savoir donner le nom de l'acronyme en latin. Lingua Quintae, je crois. Respublica. C'est la langue de la Ve République. C'est un chercheur. C'est pas Éric Hazan ?
C'est Éric Hazan.
Waouh, tu m'as lu, toi ? Oui.
Non, j'ai lu le livre d'Éric Hazan.
Voilà, vous comprenez ce que c'est, les forts et les faibles. Eh bien, c'est le faible qui vous parle. Je ne m'appelle pas Éric ni Hazan. Et donc, ce monsieur Éric Hazan, je le remercie beaucoup parce qu'il démontre qu'avec des mots, on fait dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et forcément, la communication magistrale de Sybille Veil, dont je vais parler tout de suite, mais c'était celle de Gallet aussi autrefois. Donc là, on nous dit, tout va bien. On est exceptionnel parce que nous produisons nos propres programmes et tout. Et en fait, il faut comprendre, nous ne les produirons plus. L'idée, à la force de la diminution des crédits, c'est surtout quelle est l'incitation initiale, quelle est l'étincelle de base. On ne la connaît pas. Moi, j'ai peine à croire, et je l'ai écrit ce matin dans un blog qui s'appelle radiofranche.blogspot.com. C'est accessoire, hein, parce que d'habitude j'écris dans un autre blog qui s'appelle du même nom, que si j'avais pu demander à Macron en mai 17, monsieur, pouvez-vous me dire ce que vous écoutez à la radio ? Je présume qu'il m'aurait dit, je me souviens que le dimanche soir, quand je rentrais de Paris pour aller vers le Touquet, avec mes parents, on écoutait le masque et la plume, et alors j'aimais beaucoup la joute de machin. Oui. Ah, monsieur Macron, en ce sens, vous ressemblez à tous les gens de votre génération qui disaient exactement la même chose. Mais encore, pourriez-vous me dire autre... Parce que ça fait pas beaucoup, quand même, hein, une heure le dimanche.
Ouais, puis alors, c'est pas terrible, en plus.
Oui, ce n'était pas terrible, ça dépend quelle époque, mais c'était, déjà, à cette époque-là, je pense que c'était pas très terrible. Et donc, il dit ça, puis peut-être me parler de Pierre Bellemare, et puis me dire, ah oui, puis j'écoute France Info. OK. Donc, en fait, vous connaissez pas la radio. Il avait un conseiller, culture et médias, vous allez sourire... Vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sébastien Veil, et il se trouve qu'il est le mari de Sybille Veil, la PDG de Radio France. Sébastien Veil est le petit-fils de Simone, pas la philosophe, Simone Veil, la ministre qui a permis l'égalisation de l'avortement en France en 1975, je pense. Ben, 74, oui, c'est ça. 74, c'est juste l'élection de Giscard. Moi, je pensais que c'était un peu plus tard, mais... Ok, dès 74, ok. Juillet, je pense, ou comme ça. Voilà. Donc, ce monsieur, ce conseiller de Macron, Sébastien Veil, a dû lui dire, convaincu au libéralisme, bon, on n'en peut plus, il y a trop de chaînes de télé. Bon, Ernaud décide d'un commun accord toute seule en se regardant dans la glace qu'elle va sauter France O, les Outre-mer et France 4. Je connais ni l'une ni l'autre, donc je ne vous en parlerai pas. Et pour France, pour Radio France, on dit rien de suppression, mais on parle surtout de diminution de crédit. Et dans tout ça, pour que la LQR, Lingua Quintae Respublica, fonctionne, il faut qu'il y ait des antidotes. Et on trouve une antidote, on dit, mais de toute façon... La radio ne pourra plus exister si elle n'est pas intégralement numérique, ouverte vers les jeunes. Et d'ailleurs, ça ne sera plus de la radio, ça sera de l'audio. Et alors là, je ne sais pas ce qu'en dirait Éric Hazan, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on gomme entre 70 et 80 ans d'histoire de la radio, et on dit c'est de l'audio. Donc on saute sur la table, et là on nous annonce podcast natif, émission plus, etc., etc. Bien. Et le grand ordonnateur de ce numérique à Radio France s'appelle Laurent Frisch, qui vient de France Télévisions. Vous êtes prié de ne pas rire. Et l'objectif suprême, il va pouvoir l'atteindre, puisqu'il a d'abord été nommé directeur du numérique, et maintenant il s'appelle directeur du numérique et de la production. Ça veut dire que s'il voyait des farfelus comme vous et comme nous, venir le voir en lui disant « Tiens, je pars en Chine, je vais faire un reportage sur le bateau. » Oui, je sais, Sophie Berger l'a déjà fait, mais oui. Je vais le faire mieux. il dirait, pour être validé, il faudrait y mettre de l'image, de la vidéo, des camemberts. Les camemberts, c'est des graphiques pour montrer l'évolution du tonnage. Enfin, j'en sais rien. Hein. Vous voyez bien toute la panoplie. Donc, ce monsieur est devenu LE patron de Radio France. Oui. Il y a Sybille Veil qui inaugure les chrysanthèmes. Comme le disait Charles de Gaulle, qu'elle doit bien aimer, parce que, en fait, Veil, Charles de Gaulle, tout ça, c'est très proche. Hein. Même si de naissance, elle ne s'appelle pas Veil. Donc, on assiste à ça. Et ce qui me stupéfie, et ce que j'ai pu écrire ce matin, c'est que l'auditeur, il est à 1 milliard d'années de kilomètres de ça. Mais qu'est-ce qu'il en a à battre de savoir que le patron du numérique fait ci, ou truc fait ça? Sybille Veil a dit, on est les meilleurs, on a des bonnes audiences, la semaine prochaine ça va tomber, vous allez voir, alors là on va arrêter les journaux d'information le matin de la matinale. Hein. Nicolas Demorand et Léa Salamé vont dire, eh bien encore les auditeurs, on... ouais, voilà, bien, sauf s'ils sont passés deuxième, tant pis pour eux. Donc, l'auditeur n'est pas inquiété, l'auditeur n'ira pas dans la rue, et surtout, l'auditeur continuera d'écouter tout le temps un flux dans la radio, sans arrêt, ça n'arrêtera pas. Oui, il va y avoir une grève qui va arriver, ça va durer un certain temps, ça pourrait durer aussi longtemps qu'en 2015, à savoir 28 jours, ça on ne peut pas le présager. Mais toujours est-il que là aussi, il y a bien un problème, et ça c'est encore pire, je dirais, pas par rapport à l'événement, mais de ce jeune homme immolé. Il y a que Radio France est une société de médias. Et comme par hasard, si on veut savoir quelque chose sur Radio France, c'est pas Radio France qu'on va l'apprendre. Il y a une cellule d'investigation Radio France. J'ai pas entendu parler qu'elle allait investiguer pour savoir pourquoi le pognon, pourquoi on va avoir moins d'argent de la redevance et tout. Il y a de l'investigation sur le monde entier, mais pas sur Radio France. Les ténors de l'information, Salamé, Demorand, Erner sur Culture, ne feront aucune émission pour parler de leurs collègues qui ont accepté de quitter l'entreprise alors qu'ils y étaient depuis de nombreuses années et sans doute ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Donc c'est une immense mascarade. Donc Veil peut dire bleu, vert, jaune à 10h, elle peut dire le contraire à 10h05, tout le monde aura oublié et surtout tout le monde s'en fout. Donc moi j'écris, je suis juste un petit rigolo. Je vais faire une petite digression pour vous faire sourire, parce que c'est peut-être un peu grâce à vous que j'ai encore de l'auditoire. Il se trouve que le 30 septembre, et certains d'entre vous m'ont peut-être retweeté, oui, Dubois sûrement, j'ai passé le 1 million de lecteurs en 8 ans. Oh, on dit, ouais, 1 million, c'est que dalle, 1 million en 8 ans. Ça fait plaisir, mais je sais que je sers strictement à rien. Sauf que les gens qui sont passionnés de radio, ils se disent, bon ben, ouais, Franck, tu nous sauves, hein, pas tu nous sauves pas, mais tu nous informes.
Ah, ils se disent, Franck, tu nous sauves quand même, c'est pas mal.
Enfin, non, pas tu nous sauves, tu nous sauves de l'obscurantisme, ils veulent dire.
Ah oui, oui. Okay. Ouais, ouais, modestement, quoi.
Oui, modestement.
Ouais, ouais, je comprends, je comprends.
Puis je veux dire, ils sont 2 sur 67 millions de Français.
Moi, je me dis ça assez régulièrement.
Pas 2 millions, mais 2 personnes. Voilà, donc, aucun intérêt. Toujours est-il qu'il est assez rigolo de déconstruire ce que vous faites tout le temps, la parole officielle et la super esbrouffe. Et ce qui est intéressant de situer, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Il te reste 6 minutes.
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelque chose quand même qu'on peut dire, là que tout le monde va comprendre, c'est que et Mathieu Gallet, le précédent PDG, viré par le CSA, que ça me fait du bien de le dire. Et Sybille Veil, nommée par le CSA, sont tous les deux des technocrates. Alors il y a un truc qui est rigolo, qui est arrivé dans la vie, qui a 51 ans. 68, le général de Gaulle déclare que la France, c'est la chienlit. C'est le bazar, l'ORTF est en grève, et au mois de juin, les choses peuvent reprendre. On change de ministre, Pierre Fitte s'en va, ministre de l'Information, qui faisait le conducteur du journal télévisé tous les soirs dans son bureau, enfin, tous les matins plutôt. Pierre Fitte s'en va et on nomme Guéna, Yves, de son prénom. Breton lointain, Yves Guéna. maire de Périgueux pendant un temps et qui a fait venir l'usine de timbres à Périgueux. On se demande à quoi peut servir aujourd'hui une usine de timbres puisqu'on peut les imprimer soi-même chez soi. Bien. Virgule. Yves Guéna, il se dit, voilà, c'est la chienlit. Il y a plus de radio, il n'y a plus de télé. Je ne m'occupe pas pour l'instant de la télé. Il faudrait un homme pour redresser la radio. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend pas l'annuaire des super communicants à la con de ces gars-là, de mes couilles, de tout ça. Non, il se dit, la radio. Je vais parler à deux, trois. Il y a un gars ou une femme, pas trop rêvé, il y a un gars ou une femme qui serait pas mal pour faire ça. Et il y en a un qui doit lui dire, Roland Dordain, où qu'il est ce gars-là ? Oh, ben, ça fait des années qu'il bosse pour la radio, ancien éclaireur, c'est lui qui a inventé les radios modernes France Inter, France Culture, France Musique, en novembre 1963, mais où il est ? Eh ben, il est au Club Méditerranée, il est en vacances. Non, il s'occupe de la culture, du développement de la culture au Club Med. Chut, au pied, rapplique Roland. Roland, tu vas nous sauver, c'est la chienlit, tout. Il se trouve que non-idéologue, ça arrange un peu Roland Dordain parce qu'il est quand même gaulliste. Mais il ne nous a jamais gonflé la tête avec ça à la radio. On va chercher Roland Dordain. On est fin juin. Il a chaud, hein, le garçon, parce que la grille de rentrée, j'en profite pour vous dire ce que vous ne savez pas, que vous refusez d'entendre. Autrefois, la radio, comme ça, en même temps que la rentrée des classes. Comme la rentrée des classes cette année-là est le 5 octobre, eh ben la radio commence le 5 octobre, mais moi j'ai beau m'épuiser à le dire, à l'écrire, personne ne me croit. Ça l'arrange bien, Dordain, parce que comme ça, il a jusqu'au 5 octobre pour démarrer des gens aussi illustres que Jacques Chancel avec Radioscopie, et un monsieur qui se présente ainsi. Si j'avais fait de la radio, à pitié, j'aurais fait ça. 18h10. Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous. Une anti-émission de France Inter présentée par personne. Ça, c'est le titre de l'émission. Quand on entend cette voix, et que moi, je l'ai entendue le premier jour, parce que j'étais rentré de l'école qui s'appelait le collège, je me dis, mais ça, c'est José Arthur. Il a donc fait cette émission. Vous avez entendu dans ce que j'ai dit, quand tout s'agite autour de vous, on sortait du marasme de 68. C'est De Gaulle qui parlait de marasme et ses copains Malraux et compagnie, Debré. Donc, il joue et Dordain savait faire jouer les gens. Et il a fait une radio qui a eu du peps, qui a tout de suite retrouvé des audiences, qui a pu se remesurer à Europe 1 et RTL. Aujourd'hui, paraît-il que le CSA choisit les PDG de l'audiovisuel public. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, quand même. Faudrait arrêter de se foutre de notre gueule. C'est pas vrai. On vient d'apprendre, dans le Canard enchaîné, il y a moins d'un mois, que Monsieur Hollande, qui avait dit, ah ben non, alors moi, je ne vois personne, hein. Ça, Sarkozy, c'est une mauvaise idée. Moi, je m'occupe pas. Sauf qu'il a dit, non, tu mettras pas machin, et pourquoi pas Madame Ernotte. Tiens, bizarre. Dixit, le Canard enchaîné. Bien. On a hâte d'entendre parler de Gallet, bien entendu, qui venait de nulle part. Ah, pardon. Il venait de l'INA, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi y faire, à part son prestige personnel. Bien, donc, LQR, qui n'est pas, j'avais fait une vanne quoi, sur mon blog, je disais, on connaît la LCR, vous savez, j'adore les acronymes, la Ligue communiste révolutionnaire, le PL et tout, tous les poids lourds du style Max Meynier, les routiers sont sympas, hein, les PL, voilà. Ah ben, PL Guérin, c'est différent, parce que PL Guérin, c'est votre âme, votre amitié.
Dépêche-toi, il te reste moins de 2 minutes.
Super, j'ai presque fini. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça va être la difficulté. Il y a des gens qui vont partir de Radio France, qui ont peut-être une opportunité de partir. On va absolument muer l'entreprise. Le numérique va avoir tout crédit, et c'est pas qu'une phrase, il y a beaucoup d'argent qui va être dévolu, entre 15 et 20 millions d'euros disponibles pour faire du numérique à Radio France. La radio va muter au point de mourir. Je suis persuadé qu'elle va mourir. L'année dernière, je m'étais osé écrire dans un journal que vous jugerez sans doute réactionnaire, qui s'appelle Libération. J'ai écrit une petite chronique qui disait « Ils vont tuer la radio ». Normalement, avec le collègue avec qui j'ai écrit ça, on devrait au mois de janvier écrire « Ils ont tué la radio ». On n'a pas encore commencé à écrire. J'ai fini. Mais je peux répondre à vos questions.
Oui, comment dire, il y a des gens, tout le monde va décéder parce que je suis parti pour une demi-heure aussi. Je vais essayer de faire court. Bon, bah, y a rien qui me surprend là-dedans. Tu parlais de mai 2017. Enfin, voilà. Il y a rien qui me surprend. C'est l'arrivée. L'arrivée sous les projecteurs, donc à la télé, machin, dans le gouvernement, de ministres, machin. C'est juste des managers néolibéraux, tous formés aux mêmes endroits, selon la même doxa, la même LQR, comme tu disais. Et ils colonisent à peu près l'ensemble de l'État, hein, y compris des derniers bastions qu'ont pu être l'audiovisuel public ou... certaines entreprises ex-étatiques, enfin voilà, et ils sont tous pareils, enfin tu vois, évidemment ils voient la myriade des chaînes d'infos publiques et ils se disent oh là là, là il y a des économies d'échelle à faire, on va faire une seule entreprise, enfin, ils sont tous pareils, hein. Et après derrière ça correspond à une centralisation du pouvoir aussi qui arrange des gens, enfin voilà. Donc il n'y a rien qui me surprend. Par contre, quand on se dit que ces gens-là, du coup, ils ne pensent pas en termes des gens qui les écoutent, quoi. Ils s'en foutent des auditeurs, auditrices. Et bon, évidemment, tu vois, eux, ils vendraient des carottes, c'est pareil. Hein. Ils feraient la même chose de leur journée, ils appliqueraient les mêmes méthodes. Ils s'en foutent, littéralement. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Et je me suis perdu. Ouais, la question pour moi aujourd'hui qui est posée, enfin en tout cas une des questions qui serait posée par les gens qui écoutent la radio, les gens qui historiquement l'ont écouté ou qui aimeraient bien l'écouter, la radio publique, qu'est-ce que ça devrait être ou qu'est-ce que ça devrait pas être, c'est la question de la place qu'on donne à certaines paroles là sur. Enfin, avec nos impôts, avec un truc qu'on a quand même organisé collectivement, et donc à des prêcheurs de haine, à des bouffes, je veux dire, tu prends le pire de ton repas de famille, de merde, au niveau le plus bourré du repas. Hein. Et pourquoi on donne la parole à des gens comme ça, le fait que petit à petit... Même les gens qui ont l'antenne, quoi, qui maîtrisent le temps d'antenne, la parole, littéralement, ce soit aussi des gens qui ont des opinions, tu te demandes de quel siècle ils viennent, quoi. Pour moi, ça, c'est une question qui est à poser, qui se pose, par exemple, à Brest, au moment du festival Longueur d'onde, là, où, en gros, Longueur d'onde invite la radio qui s'écoute, quoi, donc, voilà. Mais, du coup, ils se retrouvent à inviter des gens, t'hallucines quel agenda il y a derrière donner la parole à ces gens-là, et donc, une vraie question très politique, quel est le message passé, banalisé par la radio publique, quoi.
Alors, j'en profite pour dire...
Aux antennes de la radio publique.
Pour dire un truc sur lequel j'aimerais beaucoup avoir votre avis vis-à-vis de votre très jeune génération. Là, personne ne vous voit, alors qu'on peut croire que ce que je dis, c'est vrai. En fait, vous êtes quand même assez vieux, mais bon.
Voilà. Oh.
On a longtemps... Au bout d'un moment, on a dit, mais c'est scandaleux, on vire Mermet... alors qu'il faisait une émission qui, tous les jours, permettait d'exprimer les revendications sociales. C'est très juste. Mais moi, quand on dit ça, ça ne me convient pas, parce qu'on oublie de dire d'où part l'affaire. Et c'est passionnant de voir que Mermet a vendu à la patronne de l'époque, à Evry Gerry, là-bas si j'y suis, pour faire une émission de voyage. Il n'a pas dit à Eve Géry, je vais aller en Espagne et déplorer le fait que les Français profitent des plages et que les Espagnols crèvent. Il a fait des émissions de voyage. Au bout d'un moment, il a fait des sacrés voyages, parce qu'il a même été à Sarajevo en pleine guerre.
Rwanda.
Bien sûr. Petit à petit, il a trouvé sa marque. 25 ans d'émission, il a trouvé sa marque. Bien entendu, d'une façon conjointe, Laurence Bloch
qui n'était pas en, qui était juste directrice d'Inter, l'a virée parce que c'était plus assez soft. Il fallait que la radio soit soft. Il y a eu d'autres émissions qui étaient du poil à gratter. Il y avait du poil à gratter dans, dans l'oreille en coin, mais toujours d'une façon quand même un peu, entre guillemets, contrôlée ou tenue. Mermet pouvait aller quelquefois assez loin, bien sûr. Et donc aujourd'hui, quand vous imaginez que Bérénice Ravache, directrice de FIP, dit « on arrête les flash infos », sur FIP, les flash infos, c'est 3 minutes ou 2 minutes à 50 de l'heure de chaque heure, entre 7h le matin et 19h le soir, pendant 12h à peu près. Donc ça dure 3 minutes et tout. Et Ravache a dit « mais on va arrêter ça ». Parce que sinon, ça gâche la vie. On a une belle programmation musicale. Faut pas que FIP soit anxiogène. Quelqu'un qui a répondu sur Twitter, ah bon, vous avez été anxiogène? Bon, bien sûr, on a eu aussi entendu parler du mois de septembre 2001. On a entendu parler du 13 novembre 2016, etc., etc. Ou 2015. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est pour ramener au soft, au liminaire, et forcément pour la matinale de Demorand Salamé, puisque je ne l'écoute pas, je lis sur Twitter qu'ils reçoivent Piketty et Salamé s'acharne dessus comme une vache, mais la semaine d'après, elle reçoit Cécilia Attias, ex-Cécilia Sarkozy par son mariage, et Louis Sarkozy pour un livre sur leur vie personnelle, je sais pas quoi, des
merdes. Faire passer via le média radio un léchage de cul.
C'est ça, ouais. Voilà. Et donc, Thomas Piketty, je pense qu'il y a des choses à dire, et il les écrit aussi, et il les vit dans son métier d'économiste. Voilà, donc tout ça, ben, ça fait pas pour autant que les gens vont aller dans la rue pour dire... Il y a eu moins de 1000 personnes pour Mermet quand l'émission de Mermet s'est arrêtée. Donc on est dans quelque chose qui ne changera pas tant que, je dirais, tout n'a pas changé, quoi. Parce que là, on est dans un processus d'écrasement de la pensée. France Inter joue sur la fête première radio de France, qui est du bidon total. On n'est pas sûr des chiffres de médiamétrie. On va changer les éléments d'analyse, etc., etc. Voilà.
Impeccable. Tout ça en 23 minutes.
Oh mais non, il a parlé, lui, ou Tu rigoles ou quoi? Mais si. Ah, moi, je te le dis, Et la question était pertinente. Il n'a pas fait qu'une question, d'ailleurs.
Elle a dit 23 minutes au pif, enfin.
Merci, Dubois, tu es gentil.
C'est la même médiamétrie.
C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus.
Ah ouais, c'est beaucoup plus.
En tout cas, à vivre, bon.
Thibaut, tu voulais parler de l'histoire du langage des signes.
Ouais.
Du coup, c'est à toi.
Hop là. Ouais, je vais revenir un peu sur le langage des signes. En fait, c'est un article qui était paru sur le journal Z, le numéro 9 de Toulouse, qui m'avait fait m'intéresser au sujet. Donc, je vais probablement le faire en deux parties. Donc là, aujourd'hui, je vais revenir vite fait sur la langue des signes et son histoire. Donc avant la Renaissance, globalement, les gens s'en foutent un peu de comment communiquent les muets. Et on est plutôt en mode Platon, où en fait quelqu'un qui n'est pas capable de parler n'est pas capable de raisonner. Donc on va plutôt les mettre de côté, voire les cacher, dans les meilleurs cas, voire les considérer comme possédés ou complètement débiles. Et c'est à partir de la Renaissance... que ça va commencer à... C'est la noblesse qui va s'y intéresser, qui va vouloir que leurs enfants, qui ne peuvent pas parler, puissent communiquer. Et il y a des pays, notamment en Espagne, où c'est une condition pour pouvoir avoir accès à l'héritage. Donc on commence à envoyer des précepteurs qui vont commencer à regarder et à s'intéresser à communiquer avec ces enfants-là. D'un autre côté, on va aussi voir l'éducation était plutôt faite par les religieux qui, eux, vont s'y intéresser, se rendre compte qu'ils arrivent à communiquer entre eux et que, du coup, ils vont pouvoir les éduquer, entre guillemets, et donc sauver leurs âmes. Ça va se développer comme ça et en France, ça va se cristalliser entre deux grandes méthodes. On a les oralistes, donc avec Jacob Rodrigue Pereire. Donc lui, il utilise un alphabet manuel, et quelques gestes qu'il invente, mais il refuse tous les gestes naturels des sourds. Son idée, c'est que les élèves touchent la gorge du professeur et qu'ils doivent essayer d'imiter les sons, en les vibrations et le mouvement de l'organe de la gorge, quoi. Et donc c'est une méthode qui existe toujours, hein, c'est une idée de démutisation, quoi. C'est considérer qu'il faut qu'ils arrivent à parler quoi qu'il arrive pour pouvoir s'inclure dans le monde. D'un autre côté, on a Charles-Michel Delépée, qui lui, c'est un gestualiste. Il s'est rendu compte, en fait, que les muets, ils arrivaient à communiquer, que ça faisait... Bon, il n'avait pas compris, mais en fait, les sourds communiquaient depuis longtemps, qu'ils avaient déjà une langue, un vocabulaire et de la grammaire. Mais lui, il a cru que, quand il a vu des muets parler, il s'est dit, ils arrivent à faire des trucs, je vais créer une école et développer une méthode de communication. Donc lui, c'était un abbé, c'était toujours dans l'idée de sauver les petites âmes. Donc ce qu'il voulait, c'est qu'il soit capable d'écrire et de lire le français. Donc en 1755, il ouvre son école, donc dans le but d'enseigner le français écrit. Et donc il développe un système dit de signes méthodiques, qui est issu des gestes naturels, des sourds. Et il en invente quelques-uns pour organiser son système. L'idée étant que, ce que je disais, c'est une méthode qui est efficace pour la dictée visuelle, mais c'est pas une langue, ça ne donne pas le sens entier des mots. Donc, je vais vous lire un petit extrait pour comprendre, qui vient de l'abbé Delépée. Je n'ai eu besoin que de 5 signes exécutés dans un instant, comme vous venez de le voir. Le premier annonçait une action intérieure, le second représentait l'action d'une âme qui lit intérieurement, c'est-à-dire qui comprend ce qu'on lui propose. Le troisième déclarait que cette disposition était possible. Cela ne donne-t-il pas le mot intelligible ? Mais par un quatrième signe, en transformant cet adjectif en qualité abstraite, n'en résulte-t-il pas le mot intelligibilité ? Enfin, par un cinquième, en y ajoutant une négation, n'avons-nous pas le mot entier inintelligibilité ? Et donc ça, c'est issu d'un bouquin de langage des signes. Et donc en commentaire, ils mettent « Alors que pour les élèves entre eux, comme pour les sourds, adultes, dans leur communauté, il suffisait de faire 2 signes, impossible et comprendre. » Donc on se rend bien compte que c'est pas du tout une langue et en fait, ça rend le truc vraiment plutôt abscon, quoi, et difficile d'utiliser pour communiquer. Mais par contre, le fait d'avoir créé cette école, ça a permis aux sourds de se rassembler et de développer leur langage par eux-mêmes. Et il se trouve que de cet élève sont sortis des professeurs qui vont un peu diffuser en Europe ce modèle, créer d'autres écoles, le développer et qui vont participer à développer la culture sourde et à développer le langage et notamment à le rendre un peu international puisque ça va bouger dans toute l'Europe. Et ils vont se rendre compte que l'avantage du langage des signes, c'est qu'ils arrivent assez facilement à communiquer dans différents pays. Parce que la base est la même, c'est juste les signes particuliers à apprendre. Et on va voir comme ça va se développer. On a des gens type Berthier qui vont créer des fraternités. Et Berthier, lui, entre autres, il va créer ce mythe fondateur de l'abbé de l'épée, quoi, qui aurait été à la base de la langue des signes. Alors qu'on a vu que c'était plutôt un système méthodique qui était plutôt... dans le but de leur faire écrire le français. Ce qui va se passer après, on va avoir 2 choses. Déjà, c'est que il y a beaucoup d'écoles qui enseignent ce nouveau les langues des signes, mais par contre, il n'y a pas suffisamment de professeurs. Donc, il va se retrouver que c'est les entendants qui vont être en majorité former les gens pour apprendre le langage des signes. Et en même temps, va se développer un peu la médecine. Donc avec l'idée de progrès qu'on va chercher à corriger la sourdité par des expériences, donc notamment en utilisant de l'électricité, des poisons, enfin des trucs un peu dégueux. Mais il y a cette idée que c'est grâce à au progrès, à la maîtrise de la nature, c'est la médecine qui va réussir à rendre les sourds entendants et donc leur permettre de développer, de pouvoir communiquer. Il se trouve que ces gens-là, donc les oralistes et on va dire plutôt les médecins et vont gagner du pouvoir et ça va devenir un peu la pensée dominante et ça va arriver un peu en même temps que l'idée de l'instruction obligatoire où on essaye d'uniformiser les langages et de dégager un peu tous les langages minoritaires. Et il va arriver au milieu du 19e siècle. Ils vont décider de faire un congrès. Donc pour décider, on va dire, de supprimer le langage signé et de garder uniquement le langage oraliste. Donc ça, je vais vous lire un petit extrait de l'article du Z. Donc le congrès de Milan, organisé en septembre 1880 par un chapelet d'ecclésiastiques et rassemblant plus de 200 instituteurs, directeurs d'établissements, rapporteurs de ministères et 4 sourds, dans la pieuse intention d'améliorer le sort des sourds-muets, scelle la dernière pierre de cette mise à mort des signes au cri de « Vive la parole ». Considérant l'incontestable supériorité de la parole sur les signes pour rendre le sourd-muet à la société, et que l'usage simultané de la parole et des signes a l'inconvénient de nuire à la parole, à la lecture sur les lèvres et à la précision des idées. Les congressistes consacrent la méthode orale pure et proscrivent la langue des signes à la quasi-unanimité. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est arrivé un peu dans la foulée de l'idée de Jules Ferry d'avoir cette école un peu universelle, et donc qui entérine la fin de l'enseignement de la langue des signes. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce congrès, donc où il y avait uniquement que 4 sourds, et visiblement tout était préparé pour arriver à ce but de complètement supprimer l'enseignement de la langue des signes. Donc petit à petit, les enseignants vont se faire virer, les écoles vont fermer, et on va garder uniquement la méthode oraliste et cette idée de soigner la sourdité. Elle est considérée comme une maladie, et donc même, on va dire, l'aristocratie, les enfants aristocrates muets reviennent à un statut de malade devant être soigné. Et donc, pour finir pour aujourd'hui, je vais vous lire, là c'est un extrait du président de la Confédération de la Fédération des Sociétés Françaises des Sourds-Muets, qui était donc enseignant et qui se fait donc avec d'autres dégager du système éducatif. Et donc il décrit le discours qui a été prononcé par le directeur de l'époque. À la distribution des prix du 8 août 1887, monsieur le directeur, dans une improvisation, a adressé quelques paroles d'adieu aux 5 professeurs sourds-muets admis à faire valoir leur droit à la retraite par suite de la suppression absolue du langage des signes comme procédé d'enseignement. Donc là, entre guillemets, ça va être le discours du directeur. Aujourd'hui même, la mimique sortira pour n'y plus entrer de cette institution et la parole y régnera désormais seule. Un long passé se clôt, une ère nouvelle s'ouvre. Semblable au chirurgien qui remplace la jambe perdue de son patient par une jambe de bois, nous suppléons à la langue naturelle absente par une langue artificielle donnée. Les jambes de bois ne courent pas comme les jambes naturelles. Encore rendent-elles quelques services. Il en est de même de la parole enseignée aux sourds-muets. Ce n'est pas sans un serment de cœur, je le dis au nom de toute la maison, que nous verrons descendre de leur chair les hommes comme messieurs Tessière, Théobald et Dussuzeau, comme monsieur Trunk, notre dévoué professeur d'écriture, comme monsieur Simon, notre excellent surveillant général. Mais, déclare monsieur le directeur, lorsque la navigation à vapeur se substitue à la navigation à voile, 3 petits points. Donc on voit que l'idée, c'est pas vraiment de remplacer quelqu'un qui a perdu la jambe par une jambe de bois, mais c'est plutôt de couper la jambe à quelqu'un et de lui remplacer par la jambe de bois, puisqu'il considère que donc le langage des signes n'est pas un langage, et que ça va fermer plutôt ça crée une fermeture des muets, puisqu'ils ne communiquent qu'entre eux, soi-disant, et ne communiquent pas avec la langue officielle, qui est donc le français. Donc là, on a cette conférence de bilan, donc de 1880, et donc pour la prochaine midinale, on reviendra un peu sur les conséquences que ça a eu sur la suite, le fait qu'il n'y ait plus du tout d'enseignement de la langue des signes. Et aujourd'hui, quelle conséquence ça a sur la médicalisation des sourds-muets, et notamment sur le fait de faire subir à des jeunes enfants de lourdes opérations pour leur permettre, essayer de leur permettre, ou soi-disant leur permettre d'entendre et de pouvoir parler.
Encore aujourd'hui, tu veux dire ?
Encore aujourd'hui, oui. Ça est toujours le cas. Il y a le langage des signes qui est revenu, quoi, qui est toujours enseigné, mais il y a toujours cette idée que c'est une maladie et qu'on doit la soigner, et que En fait, ils sont pas capables de communiquer avec le reste du monde s'ils ne sont pas capables de parler. Donc ça, ce sera toujours avec un autre article du Z, et toujours avec ce livre sur le langage des signes.
D'accord, la semaine prochaine, donc.
Je trouve que les rédacteurs de Z sont très forts, parce que oser écrire un chapelet d'exélésiastique, c'est excellent. Je veux dire, j'aurais même pas osé moi-même, mais je le reprendrai.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu disais, à un moment donné, il y avait beaucoup d'écoles et pas assez de professeurs. Mais il y avait tant que ça de sourds et de malentendants.
Disons que les écoles n'ont pas permis de former suffisamment vite les sourds pour apprendre à d'autres sourds à le langage des signes. Mais qu'en fait, se retrouvait à être la majorité d'enseignants entendants qui enseignaient aux sourds le langage des signes, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Et donc, ça ne permet pas vraiment de développer pleinement leur langage, puisque c'est comme si toi, tu apprenais à des Anglais l'anglais. Quoi.
C'est ça.
Oui, oui, d'accord.
Nico ?
Oui, bonjour.
Tu veux continuer sur Gunther Anders ?
Si vous voulez.
Bah, on veut bien.
À toi, on ne te donne pas le temps de parole.
Combien de temps j'ai ?
Oh, vas-y. De toute façon, tu vas voir.
C'est ça. C'est la parité, c'est ça. C'est
ça, le mot rapide. Alors, je resitue Gunther Anders, c'est philosophe
bien.
Du 20e, 1902-1990 exactement. Il fut mari d'Anna Arendt. C'est un philosophe atypique parce qu'il n'a pas été beaucoup prof, il a fait des boulots d'ouvrier, etc. Et sa pensée, elle est assez radicale. Il a beaucoup réfléchi sur la technique et sur ce soi-disant progrès technique. Et du coup, c'est la génération de la Seconde Guerre mondiale, c'est la génération de la catastrophe de la Shoah, c'est la génération de la bombe atomique, il a beaucoup écrit là-dessus. Et la semaine dernière, j'ai commencé à parler d'un petit texte qui s'appelle « Le monde comme fantôme et comme matrice, considération philosophique sur la radio et la télévision ». Ce qui était intéressant, c'est ses analyses sur ces médias de masse, qui ont installé une société de masse. Donc je vais juste continuer un petit peu sur les thèses qu'il avait développées. Je rappelle juste... Ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est cette communication de masse, qu'est-ce qu'elle a créé ? Un nouveau type d'être humain qu'il appelle l'ermite de masse. J'avais parlé de ça. Un ermite de masse, ce n'est plus quelqu'un de solitaire et qui va dans son coin méditer. On est tous, selon ces mots, c'est ça. C'est des millions d'exemplaires séparés, mais pourtant identiques, enfermés dans leur cage, tels des ermites, donc pour fuir le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde en effigie. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, lui, il développe une idée comme quoi, en fait, ces médias de masse font que le monde n'existe plus qu'en effigie, c'est-à-dire qu'en image, représentation, et on ne fait plus l'expérience du monde. Je trouve qu'il est assez visionnaire, parce qu'il écrit ces textes-là dans les années 50. Il essaie de comprendre la mutation que c'est, quoi, anthropologique, philosophique, de ce monde comme ça qui devient un monde en effigie. Et alors, je vais développer des trucs que j'avais pas développé hier. La question, c'est ça. Maintenant, le monde nous est livré à domicile, comme l'électricité ou comme le chauffage, voilà quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nous, êtres humains, et qu'est-ce que ça veut dire, comment on conçoit le monde et comment on conçoit les relations qu'on a avec ce monde ? Quelques thèses qu'il pose, c'est ça. Et là, je le lis, hein, c'est lui qui écrit. Quand c'est le monde qui vient à nous, et non l'inverse, nous ne sommes plus au monde. Nous nous comportons comme les habitants d'un pays de cocagne qui consomme leur monde. Ça veut dire, le pays de cocagne, ça renvoie à une espèce d'utopie, je ne sais plus, c'est Rabelais, je crois, qu'en parle, où en fait, c'est un pays où on avait juste à se servir comme ça, on se servait des saucisses qui poussaient aux arbres, des pommes. Pays fabuleux, mais en fait, où c'est un pays de consommation. On ne produit plus rien, on a juste à se servir. Il se sert de cette image pour dire le monde, du coup, devient un objet. On a plus de réflexion, on n'a plus d'expérience, on n'a plus de... Quoi. En tout cas, les expériences, elles sont totalement passives. On est là et on consomme le monde, avec l'illusion qu'en fait, on est en interaction avec le monde. Il vient à nous, mais en fait, voilà, totalement passif. Il écrit ça dans les années 50. Ça nous fait écho après, par exemple, la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la non-réaction de la plupart des gens face à des événements. Bah, si, anthropologiquement, en fait, il y a cette rupture avec l'expérience du monde, on peut comprendre en fait, que les gens ne réagissent plus. Je suis clair dans ce que je dis ?
Ouais. Mm-hmm.
Deuxième truc qu'il dit, c'est quand le monde vient à nous, non seulement en tant qu'image, il est à la fois présent et absent. Il devient fantomatique. Bon, voilà, c'est une thèse qui découle de la première thèse, j'en rajoute pas. Troisième thèse, quand nous le convoquons à tout moment, nous ne pouvons certes pas disposer de lui, mais nous pouvons l'allumer et l'éteindre. On peut allumer sa télé, on peut l'éteindre, etc. Nous détenons une puissance divine. On a l'impression que l'être humain devient omnipotent. Faire ce qu'il veut du monde, etc. Soi-disant, il devient divin, mais en fait, bon, c'est une illusion totale. On a l'impression d'être vraiment concerné par tout ce qui se passe, de pouvoir agir, hop, j'éteins, puis voilà, mais c'est le contraire.
Ouais, c'est omnipotent et omniscient aussi. Avec,
omnipotent, omniscient.
Ouais, tu sais, tu peux voir partout en même temps, et en fait...
Ouais. Ce qui est quand même une mutation complètement... hallucinante quand on y pense. On est branché à ce qui se passe en Chine, partout. Donc, illusion d'une espèce d'omniscience, d'omnipotence divine. Quatrième thèse qui dit « Quand le monde s'adresse à nous sans que nous puissions nous adresser à lui, ben, nous sommes condamnés au silence, condamnés à la servitude, j'en avais parlé. Mais voilà, ça fait de nous des esclaves, des serfs, au sens propre du thème. J'avais dit que serf en allemand, ce qu'il écrit en allemand, c'est la racine, ça vient de la racine du terme écouter. Le cerf, c'est celui qui écoutait silencieusement les paroles du maître. Eh bien, c'est en ça que nous transforment les masses médias. Quand il nous est seulement perceptible, le monde, et que nous ne pouvons pas agir sur lui, nous sommes transformés en espions et en voyeurs. Cinquième thèse. Et là, moi, ça fait écho avec toutes les émissions de télé-réalité qui nous transforment comme ça, en fait. En voyeurs, on regarde des gens faire des conneries. Alors, c'est une position qui, psychologiquement, nous donne l'illusion d'avoir accès à tout, à connaître plein de choses, mais surtout à la grosse merde, en fait, qui passe. Hein, mais bon, voilà, c'est des choses assez fondamentales, je trouve, qui se passent, quoi. Autre chose, alors là, c'est un peu philosophique. Alors, je vais essayer de comprendre avec vous ce qu'il dit. Donc, sixième thèse. Quand un événement ayant eu lieu à un endroit précis est retransmis... et peut être expédié n'importe où sous forme d'émission. Ce qui se passe sans arrêt. Hein. Il y a un événement, il est retransmis des milliers de fois. Cet événement est alors transformé en une marchandise mobile et presque omniprésente. Bon, ça on comprend, marchandisation de tout ce qui se passe, quoi. L'espace dans lequel il advient n'est plus son principe d'individuation. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, un événement unique... Voilà. Prenons l'exemple d'un étudiant qui se fait... qui s'immole, à force qu'on en reparle, bon là, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais imaginons, non, bon, voilà, bref, on en parle, on revoit des images en boucle. En fait, l'événement, dans son événement même, unique, est annulé. Il devient un non-événement. C'est ça que je comprends. Principe d'individuation. Ce qui s'est passé d'unique, et de fort, et de dramatique, et de terrible, est annulé. Annulé à force de le retransmettre et de le revoir, retravailler, etc. Voilà. Septième thèse. Quand il est mobile, quand l'événement est mobile et apparaît en un nombre virtuellement illimité d'exemplaires, il appartient alors en tant qu'objet au produit de série. Il faut payer pour recevoir ce produit de série. C'est bien la preuve que l'événement est une marchandise. Là, quand il parle de nombre virtuellement illimité d'exemplaires, lui, il écrit dans les années 50, il connaissait pas Internet, il connaissait pas tout ce bordel de réseaux sociaux. Pour moi, c'est visionnaire. C'est ce qui se passe aussi avec les fils où on retransmet sans arrêt, etc. L'idée de marchandisation, on est en plein là-dedans. Je veux dire, notre rapport après avec tout ce qui se passe, il est dans un système marchand, capitaliste, qui fait du fric avec tout et n'importe quoi. On est d'accord. Hein. Huitième thèse. Et là, on arrive à des thèses qui sont vraiment fortes philosophiquement. qui va engager en fait ce qui se passe pour l'être humain. Donc quand il n'a d'importance sociale que sous forme de reproduction, l'événement, le monde. C'est-à-dire en tant qu'image. La différence entre être et paraître, entre réalité et image, est abolie. Et il finit par dire, en fait, on est en train de perdre le monde. On ne le vit plus, on ne fait plus l'expérience du monde. Le monde est en train de disparaître. Ou en tout cas, il devient, en fait, un retour à ce qu'on appelle en philosophie l'idéalisme. Le monde n'existe que dans notre tête. Et du coup, c'est ma représentation qui va compter. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus quasiment de réalité, il n'y a plus de rencontre avec l'autre, il n'y a plus d'expérience.
C'est l'inverse de l'allégorie de la caverne, en fait.
Ouais, un peu.
Tant qu'il est dans la caverne, il voit l'image de ce qui se passe dehors. C'est une fois qu'il sort, c'est ça, hein, enfin, c'est grossièrement. C'est que des images renvoyées. Et une fois qu'il sort de la caverne, il voit la vraie image, il voit le monde, quoi. Et là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'avec ces médias-là, on est en train de re-rentrer.
On re-rentre dans sa propre caverne.
Ouais, c'est ça.
Privatisée, individuelle. Bon, voilà, moi, ça, je trouve ça super intéressant, ce qu'il raconte, ce gars. Il écrit ça dans les années 50. Je sais pas, ça me paraît visionnaire sur ce que ce système... C'est pas qu'un système médiatique. Après, derrière, il y a des enjeux politiques. Il y a eu des volontés, quoi, de créer cette espèce de système surreprésenté, je sais pas comment dire, des représentations, des images en flux, sans arrêt, des informations, des voix qui nous viennent. Et lui, il en tire la conclusion forte que nous ne vivons plus le monde.
Il faudrait mettre en parallèle, ça me donne très envie de lire ce que tu nous proposes, là, Le village global de McLuhan, qui expliquait, lui, années 60, hein, que donc on serait tous du même village, il n'y aurait plus de frontières, et voilà, et on mangerait tous la même chose. Enfin, manger, pas de façon alimentaire, c'est...
Manger spirituellement.
Spirituellement, voilà. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, je continue à être effaré d'apprendre que dans le plus petit village du Texas, un jeune homme moitié fou a décimé 20 élèves de l'école. Oui, c'est très grave. Mais pourquoi on m'informe sur ça? Pourquoi on fait ça? Ça sert à quoi? Alors que le même village du Texas ne sait pas que le jeune Lyonnais s'est immolé la semaine dernière. Et bien sûr, Trump, on nous montre, fait des conversations où il parle de faire un mur avec le Mexique, avec un État qui n'est pas frontalier du Mexique. Bien. Donc, tout ça inquiète aussi sur le... C'est-à-dire que le problème des chaînes d'infos dont on parlait aussi précédemment, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'au bout d'un moment, il va falloir répéter, puisqu'il n'y aura plus rien à dire. Et donc, là où c'est très grave, je vois que la semaine dernière, des gens ont signé des pétitions pour dire « c'est inadmissible, on nous enlève le soir 3 ». Alors là, tu te dis « putain, c'est quoi le soir 3 ?» C'est le truc du siècle, quoi. Le soir, il était de bon ton que les politiques, surtout... se mettre devant la télé et avale les images que France 3 avait bien décidé de lui donner. Et c'était quelque chose d'important. Alors qu'on leur dit, attendez, mais c'est avec le même journal, on va juste le basculer sur le 27, France Info TV, qui gagne pas un rond. De fait, il gagne pas un rond, mais surtout, il n'a pas d'auditeur, ni de téléspectateur. Et alors, là aussi, on fait un événement pour... Et de quelque chose qui est... Alors que les députés, tout le monde est informé en permanence toute la journée. C'est quoi le soir 3? Donc, tout ça, c'est assez fou, mais tu nous redis le titre du bouquin et le monsieur.
C'est Gunther Anders,
oui.
Le gars. Son grand bouquin, c'est L'obsolescence de l'homme. Donc voilà, tout un programme. Hein.
Oui.
Et voilà. Alors d'accord. Ça, c'est tout n'est pas traduit encore.
D'accord.
Parce que il fait polémique, en fait, oui. Ce type. Mais L'obsolescence de l'homme, premier tome... On peut le trouver dans l'édition des Nuisances, l'encyclopédie des Nuisances, avec des textes incroyables, hein, sur la bombe atomique, par exemple, ses réflexions sur la bombe, c'est vachement intéressant. Voilà. Après, il y a d'autres textes qu'on peut trouver, mais il y a pas encore tout qu'on peut lire.
D'accord.
On fait une petite pause, et oui. Puis on revient pour l'agenda. On va écouter Billie Holiday et Nina Simone.
Oh là là, la playlist a évolué.
Sunday. not wear the black coat of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, I wake and I find you asleep in the deep of my heart. Dear, darling, I hope that my dream never haunted you.